Ramuncho, première partie, chapitre 5. 8 heures du soir. Ils ont dîné à la cidrerie, tous les joueurs, sauf le vicaire, sous le patronage d'Itchoua. Ils ont flâné longuement ensuite, alangués dans la fumée des cigarettes de contrebande, écoutant les improvisations merveilleuses des deux frères Iragola, de la montagne de Mandiaspi, tandis que dehors, dans la rue, les filles, par petits groupes, se donnant le bras, venez regarder aux fenêtres, s'amuser à suivre, sur les vitres enfumées, les ombres rondes de toutes ces têtes d'hommes, coiffées de bérets pareils. Maintenant, sur la place, l'orchestre de cuivre joue les premières mesures du fandango. Et les jeunes garçons, les jeunes filles, tous ceux du village et quelques-uns aussi de la montagne qui sont restés pour danser, accourent par bandes impatientes. Il y en a qui dansent déjà dans le chemin, pour ne rien perdre, qui arrivent en dansant. Et bientôt, le fandango tourne, tourne au clair de lune nouvelle, dont les cornes semblent posées là-haut, sveltes et légères, sur la montagne énorme et lourde. Dans les couples qui dansent, sans s'enlacer ni se tenir, on ne se sépare jamais. L'un devant l'autre toujours, et à distance égale, le garçon et la fille évoluent avec une grâce rythmée, comme liés ensemble par quelque invisible aimant. Il s'est caché, le croissant de lune, abîmé, dirait-on, dans la ténébreuse montagne. Alors on apporte des lanternes qui s'accrochent au tronc des platanes, et les jeunes hommes peuvent mieux voir leur danseuse, qui vis-à-vis d'eux se balance avec un air de continuellement fuir, mais sans s'éloigner jamais, presque toute jolie, élégamment coiffée en cheveux, un soupçon de foulard sur la nuque, et portant avec aisance des robes à la mode d'aujourd'hui. Eux, les danseurs, un peu graves toujours, accompagnent la musique en faisant claquer leurs doigts en l'air, figures rasées et brunies, auxquelles les travaux des champs, de la contrebande ou de la mer ont donné une maigreur spéciale, presque ascétique. Cependant, à l'ampleur de leurs coups bronzés, à la carrure de leurs épaules, la grande force se décèle, la force de cette vieille race, sobre et religieuse. Le fandango tournait aussi, sur un air de valse ancienne. Tous les bras tendus et levés s'agitent en l'air, montent ou descendent avec de jolis mouvements cadencés, suivant les oscillations des corps. Les espadrilles à semelles de cordes rendent ces danses silencieuses et comme infiniment légères. On n'entend que le froufrou des robes et toujours le petit claquement sec des doigts imitant un bruit de castagnettes. Avec une grâce espagnole, les filles dont les larges manches, ces poids comme des ailes, dandinent leurs tailles serrées, au-dessus de leurs hanches vigoureuses et souples. En face l'un de l'autre, Ramuncho et Gracieuse ne se disaient d'abord rien, tout entier à l'enfantine joie de se mouvoir vite et en cadence, au son d'une musique. Elle est d'ailleurs très chaste, cette façon de danser, sans que jamais les corps se frôlent. Mais lui aussi, au cours de la soirée, des valses et des quadrilles, et même des promenades bras dessus, bras dessous, permettant aux amoureux de se toucher et de causer. Alors, mon Ramuncho, dit Gracieuse, c'est de ça que tu penses faire ton avenir, n'est-ce pas? Du jeu de paume? Ils se promenaient maintenant aux bras l'un de l'autre, sous les platanes enfeuillés, dans la nuit de novembre, tiède comme une nuit de mai, un peu à l'écart, pendant l'intervalle de silence où les musiciens se reposaient. Dame, oui, répond Raymond. Chez nous, c'est un métier comme un autre, où l'on gagne bien sa vie, tant que la force est là. Et on peut aller de temps en temps faire une tournée aux Amériques, tu sais, comme Irun et Gorostegui, rapporter des 20, des 30 000 francs pour une saison, gagner honnêtement sur les places de Buenos Aires. Ah, les Amériques, s'écria Gracieuse, dans un élan étourdi et joyeux. Les Amériques, quel bonheur! Ça avait toujours été mon envie à moi, traverser la grande mer pour voir ce pays de là-bas. Et nous irions à la recherche de ton oncle Ignacio, et puis chez mes cousins Bideguena, qui tiennent une ferme au bord de l'Uruguay, dans les prairies. » Elle s'arrêta de parler, la petite fille jamais sortie de ce village que les montagnes enferment et surplombent. Elle s'arrêta pour rêver à ces pays si lointains, qui hantaient sa jeune tête, parce qu'elle avait eu, comme la plupart des Basques, des ancêtres migrateurs, de ces gens que l'on appelle ici Américains ou Indiens, qui passent leur vie aventureuse de l'autre côté de l'océan et qui reviennent au cher village que très tard pour y mourir. Et tandis qu'elle rêvait, le nez en l'air, les yeux en haut, dans le noir des nuées et des cimes emprisonnantes, Ramuncho sentait son sang courir plus vite, son cœur battre plus fort, dans l'intense joie de ce qu'elle venait de si spontanément dire. Et la tête penchée vers elle, la voix infiniment douce et enfantine, il lui demanda, comme un peu pour plaisanter, « Nous irions ?»« C'est bien comme ça que tu as parlé. Nous irions ?»« Toi avec moi ?»« Ça signifie donc que tu serais consentante un peu plus tard, quand nous serons d'âge, à nous marier tous deux ?» Il perçut à travers l'obscurité le gentil éclair noir des yeux de Gracieuse qui se levait vers lui avec une expression d'étonnement et de reproche. « Alors tu ne savais pas ? Je voulais te le faire dire, tu vois bien. C'est que tu ne me l'avais jamais dit, sais-tu ?» Il serra contre lui le bras de sa petite fiancée, et leur marche devint plus lente. C'est vrai qu'ils ne s'étaient jamais dit cela, non pas seulement parce qu'il leur semblait que ça allait de soi, mais surtout parce qu'ils se sentaient arrêtés au moment de parler par une terreur quand même, la terreur de s'être trompé, que ce ne fût pas vrai. Maintenant, ils savaient. Ils étaient sûrs. Alors ils prenaient conscience qu'ils venaient de franchir à deux le seuil grave et solennel de la vie. Et appuyés l'un à l'autre, ils chancelaient presque dans leur promenade ralentie, comme deux enfants ivres de jeunesse, de joie et d'espoir. « Mais est-ce que tu crois qu'elle voudra ta mère ?» reprit Ramuncho timidement, après le long silence délicieux. « Ah voilà !» répondit la petite fiancée avec un soupir d'inquiétude. « Arrochkoa, mon frère, sera pour nous. C'est bien probable, mais maman... Maman voudra-t-elle ? Puis ce ne sera pas pour bientôt, dans tous les cas. Tu as ton service à faire, à l'armée. »« Non, si tu le veux. »« Non, je peux ne pas le faire, mon service. Je suis Guizposcoan, moi, comme ma mère. Alors on me prendra pour la conscription, que si je le demande. » Donc ce sera comme tu l'entendras, comme tu voudras, je ferai. Ça, mon Ramuncho, j'aimerais mieux plus longtemps t'attendre, et que tu te fasses naturaliser, et que tu sois soldat comme les autres. C'est mon idée à moi, puisque tu veux que je te la dise. Vrai, c'est ton idée. Eh bien, tant mieux, car c'est la mienne aussi. Oh mon Dieu, français ou espagnol, moi ça m'est égal. À ta volonté, tu m'entends, j'aime autant l'un que l'autre. Je suis basque, comme toi, comme nous sommes tous. Le reste, je m'en fiche, pour ce qui est d'être soldat quelque part, de ce côté-ci de la frontière ou de l'autre. Moi, je préfère ça. D'abord, on a l'air d'un lâche quand on s'esquive. Et puis, c'est une chose qui me plaira, pour te dire franchement. Ça, et voir du pays. C'est mon affaire, tout à fait. Eh bien, mon Ramuncho, puisque ça t'est égal, alors fais-le en France, ton service, que je sois plus contente. Entendu. Gachucha, diminutif basque de Gracieuse. Tu me verras en pantalon rouge, hein? Je reviendrai au pays comme Bidegaray, comme Joachim, te rendre visite en soldat. Et sitôt mes 3 années finies, alors notre mariage, dis, si ta maman nous permet. Après un silence encore, Gracieuse reprit d'une voix plus basse, et solennellement cette fois. Écoute-moi bien, mon Ramuncho. Je suis comme toi, tu penses. J'ai peur d'elle, de ma mère, mais écoute-moi bien. Si elle nous refusait, nous ferions ensemble n'importe quoi, tout ce que tu voudras, car ce serait la seule chose au monde pour laquelle je ne lui obéirais pas. Puis le silence de nouveau revint entre eux, maintenant qu'ils s'étaient promis, l'incomparable silence des joies jeunes, des joies neuves et encore inéprouvées, qui ont besoin de se taire, de se recueillir pour se comprendre mieux dans toute leur profondeur. Ils allaient à petits pas et au hasard vers l'église, dans l'obscurité douce que les lanternes ne troublaient plus, grisés rien que de leur innocent contact et de se sentir marcher l'un contre l'autre dans ce chemin où personne ne les avait suivis. Mais un peu loin d'eux, qui avaient fait pour s'isoler plus de chemin que d'ordinaire, le bruit des cuivres tout à coup s'éleva de nouveau en une sorte de valse lente, un peu bizarrement rythmée. Et les deux petits fiancés, 13 enfants, à l'appel du fandango, sans s'être consultés, comme s'il s'agissait d'une chose obligée qui ne se discute pas, prirent leur course pour n'en rien manquer, vers le lieu où les couples dansaient. Vite, vite, en place, l'un devant l'autre, ils se remirent à se balancer en mesure, toujours sans se parler, avec leurs mêmes jolis gestes de bras, leurs mêmes souples mouvements de hanches. De temps à autre, sans perdre le pas ni la distance, ils filaient tous deux en ligne droite, comme des flèches, dans une direction quelconque. Mais ce n'était qu'une variante habituelle de cette danse-là. Et toujours en mesure, vivement, comme des gens qui glissent, ils revenaient à leur point de départ. Gracieuse apportait à danser la même ardeur passionnée qu'elle mettait à prier devant les chapelles blanches. La même ardeur aussi que plus tard, sans doute, elle mettrait à enlacer Raymond, quand les caresses entre eux ne seraient plus défendues. Et par moments, toutes les 5 ou 6 mesures, en même temps que son danseur léger et fort, elle faisait un tour complet sur elle-même, le torse penché avec une grâce espagnole, la tête en arrière, les lèvres entr'ouvertes sur la blancheur nette des dents. Une grâce distinguée et fière, se dégageant de toute sa petite personne encore si mystérieuse, qui, à Raymond seul, se livrait un peu. Tout ce beau soir de novembre, ils dansèrent, l'un devant l'autre, muets et charmants, avec des intervalles de promenade à deux, pendant lesquels, même s'ils ne se parlaient plus qu'à peine, et toujours de choses enfantines et quelconques, enivrés chacun en silence par la grande chose sous-entendue et délicieuse dont ils avaient l'âme remplie. Et jusqu'au couvre-feu sonné à l'église, ce petit bal sous les branches d'automne, ces petites lanternes, cette petite fête dans ce recoin fermé du monde, jetèrent un peu de lumière et de bruit joyeux au milieu de la vaste nuit, que faisaient plus sourdes et plus noires les montagnes dressées partout, comme des géants d'ombre.